divergence numérique, sixième du nom. Gilles Gouget qui vous cause dans le micro rouge. Je suis en compagnie d'Albert Bruck et de Jean-Claude Ziegler. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Gilles.
Alors Anthony n'est pas avec nous. Anthony, on lui souhaite un prompt rétablissement. Il était vraiment très fatigué. Anthony, à qui on peut rendre hommage ici, puisqu'il participe activement à l'informatisation libre de Divergence FM. Au sommaire, eh bien, une émission, comme à l'accoutumée, plutôt bien remplie, avec notamment, on va faire un point sur les nouvelles du front, comme on dit gentiment.
Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et en ce qui concerne les brevets au niveau européen, eh bien, on savait tous que la bataille n'était pas gagnée, mais il est vraiment temps de se rebouger à nouveau.
Voilà, on pourra peut-être aussi dire un petit mot de ce qui est en train de se passer avec l'éditeur de Redmond.
Oui.
Et puis, on aura aussi de la musique, pas mal de musique en open audio license. On écoutera Tournevis, le smiley à l'œil au beurre noir ou d'autres réjouissances. Et puis, notamment, une interview de Edgit, plus précisément d'un de ses responsables, Albert.
Oui, tout à fait. Edgit est une société informatique en logiciel libre et plus spécialement au niveau du support informatique. Car en informatique et surtout dans le libre, ce qui manque, c'est un support, un service pour expliquer aux gens comment fonctionne leur système et pour leur proposer des solutions. Donc, c'est ce que fait Edgit et on les a interviewés lors du
salon Solutions Linux.
Voilà, au mois de février, vous allez les entendre tout à l'heure.
Voilà, Edgit, comme quoi le libre crée aussi de l'emploi et de l'activité économique. Ensuite, on fera un retour en arrière sur les rencontres mondiales des logiciels libres de l'année dernière pour faire un petit clin d'œil à Léa.
Oui, tout à fait. Comme vous êtes peut-être pas encore tous censés le savoir, mais Léa et Linux French vont créer bientôt un nouveau portail dont nous pouvons ce soir vous donner le nom. Il s'appelle l'Asile. C'est l'association impertinente en logiciel libre. Et à cette occasion-là, on avait une interview de l'équipe de Léa Linux qui date du mois de juillet de l'année dernière, qu'on n'avait pas passé par faute de temps, par faute d'actualité un peu trop chargée. Et là, on profite aujourd'hui de cette émission et de l'arrivée du nouveau portail, normalement mi-fin avril, pour vous le passer.
Voilà, et puis dans la rubrique par téléphone, on aura le rédacteur en chef de MISC, Frédéric Rénal, pour parler, j'imagine, de sécurité aux alentours de 19h40.
Voilà, de sécurité et du Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est l'Internet sans fil qui a de plus en plus de succès, que vous pouvez trouver un peu partout maintenant dans les magasins, que ce soit pour des machines Windows, Mac, OS 10 ou encore Linux. Et Frédéric va nous expliquer un peu tout ça et où on en est au niveau de la sécurité. Vous verrez, c'est pas triste.
C'est pas triste. Et puis, on se quittera sur les au revoir et bien sûr l'agenda avec tous les rendez-vous qui vous attendent si vous avez envie de déplacer vos petites mimines et vos petits petons partout dans l'Hexagone pour aller voir ce qui se passe dans le libre. Alors, que va-t-il se passer avec les brevets? Que va-t-il se passer avec Microsoft, pour ne pas le nommer? On en parle tout de suite après une petite musiquette, de Screwdriver qui nous interprète 1960. 68, l'année de ma naissance. Allez, on s'en fout.
Okay.
1968, ça s'appelle Screwdriver, ce qui veut dire tournevis en bon français. C'est de la musique sous licence Open Audio License. On en entend parler en ce moment. Récemment à la télévision, le responsable, je crois, de l'AFUL a été interrogé par rapport à l'histoire de Microsoft. En tout cas, on peut espérer que ça pourrait faire bouger d'autres choses dans un bon sens, à savoir les choses tournant autour des brevets logiciels. Alors Jean-Claude, où est-ce qu'on en est de cet épineux problème du pot de terre contre le pot de fer ?
Eh bien, le problème est toujours aussi épineux. Alors, je voudrais faire un bref rappel quand même du problème, parce qu'il se peut que parmi nos auditeurs, certains ne soient pas du tout au courant. Nous sommes menacés de voir en Europe, comme aux États-Unis, comme au Japon, comme dans beaucoup d'autres pays, l'arrivée de brevets sur les logiciels qui, jusqu'à présent, sont protégés par le droit d'auteur. Et je tiens à le dire fermement, protégés efficacement par le droit d'auteur. Donc on n'a vraiment pas besoin de brevets sur les logiciels.
Là en fait il s'agit de breveter des fonctions des logiciels.
Des fonctions, des algorithmes, enfin beaucoup de choses et qui rendent, il faut le rappeler, les choses aussi ridicules que si quelqu'un aujourd'hui voulait breveter le fait de respirer librement. Voilà. Et ça nous paraît à tous évidemment invraisemblable. C'est un peu ce que voudrait faire tous les grands monopoles, pas spécialement Microsoft, mais beaucoup d'autres, pour nous asservir totalement. Donc.
Pour augmenter leur part de marché. En
vrai. Voilà, et pour asseoir leur monopole totalement.
Et pour interdire l'innovation aussi.
Voilà, et pour monopoliser toute innovation technique. Alors les Américains, Microsoft en particulier, a beaucoup d'expérience dans le domaine, ils savent de quoi ils en retournent, et ils se battent vraiment très très fort au travers de lobbies, pour faire que les Européens se plient à leurs désirs. Depuis le départ, les militants des logiciels libres en Europe, mais dans le monde entier, mais aussi, il faut le dire, de beaucoup de sociétés qui font du logiciel propriétaire, et qui sont de petites sociétés, quelquefois des PMI, avec quelques salariés simplement, se battent eux aussi à côté des militants des logiciels libres pour empêcher ce brevetage parce que ce serait la mort de milliers, de dizaines de milliers de petites entreprises en Europe qui ne pourraient plus produire parce que à chaque fois qu'ils voudraient produire un nouveau produit, il faudrait qu'ils aillent vérifier dans les registres des brevets mondiaux que l'idée qu'ils ont n'a pas déjà été utilisée et brevetée par quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que ça entraînerait des frais de gestion considérable. Aucune petite entreprise n'est capable de suivre une telle pression. Voilà, alors au mois de septembre de l'année dernière, après beaucoup d'événements, les militants du logiciel libre ont réussi à sensibiliser les parlementaires européens et le Parlement a profondément modifié la proposition de directive de la communauté européenne le 24 septembre. Cette directive a été complètement retournée et en fait a quasiment interdit le brevetage des idées, des concepts et donc interdit le brevetage pur et simple des programmes informatiques.
Sauf que...
Il faut se souvenir que le Parlement européen n'est pas une chambre comme notre Parlement à nous, c'est-à-dire qu'ils ont un droit d'expression consultatif et que pour qu'une décision prise par le Parlement soit vraiment validée, il faut que le Conseil des ministres européens valide ce vote. Le vote a eu lieu le 24 septembre. Dès le mois de novembre, M. Fritz Bolkestein, qui est le commissaire européen qui avait commis le projet de directive, avait prévenu les parlementaires en disant que si jamais ils modifiaient profondément la directive, cette directive pourrait être purement et simplement retirée. C'est-à-dire qu'on retirerait au Parlement son avis sur la question. Moi, je tiens à dire ici très fortement, très fermement, que c'est un véritable déni de démocratie. On se demandait tous s'il pousserait le bouchon jusqu'au point de le faire. Alors, officiellement, la directive n'est toujours pas retirée. Mais dans les faits, dès le mois de novembre, les gouvernements européens ont reçu, en provenance de la Commission européenne, un document qui démolissait complètement toutes les modifications qui avaient été faites par le Parlement en disant quasiment purement et simplement que le Parlement était incompétent et qu'ils n'avaient pas compris la nature du problème. Ce document a été quand même... les choses ont transpiré. Beaucoup d'entre nous le connaissent, pour certains, très exactement. C'était très inquiétant, mais il se trouve que la semaine dernière, mercredi dernier, un nouveau document émanant de la communauté européenne a été envoyé au gouvernement. On ne connaît pas encore le contenu de ce document, mais on peut s'attendre au pire. Mmh. Surtout que... Il n'est toujours pas question de voir ce nouveau document révisé par les gouvernements en discussion au Parlement européen et que le mois de juin qui vient, on renouvelle ce Parlement européen. On ne sait pas ce qu'il sortira des urnes au mois de juin en ce qui concerne les élections européennes, mais il est clair que même s'il y a un renouvellement, même s'il n'y a pas de bouleversement et que l'on est obligé de repartir dans une nouvelle discussion au Parlement sur cette question, les choses seront très très difficiles. Donc, il est temps, et les organisations européennes qui sont très sensibles à la chose, et en particulier l'une d'entre elles qui s'appelle, attendez que je vous dise clairement, l'association, c'est la FFII, qui est en fait une association européenne d'origine allemande, et qui se bat pour empêcher tout brevetage de logiciels en Europe. Autour d'elle se sont regroupées beaucoup d'autres associations, aussi bien des associations de particuliers ou d'utilisateurs de logiciels libres que des syndicats professionnels. Il faut savoir qu'il y a plus de 3000 chefs d'entreprise en Europe qui ont pris position très clairement contre le brevetage des logiciels. Et donc cette association vient de lancer un cri d'alarme et appelle à une manifestation à Bruxelles. Il faut savoir aussi que les Verts européens sont très fortement derrière et sont la principale porte d'entrée de nos militants dans le Parlement européen à Bruxelles. Et que donc le 14 avril prochain, dans moins d'un mois, il y aura une manifestation à Bruxelles, comme il y en a déjà eu une fin août, qui avait rassemblé beaucoup de monde et qui avait fait beaucoup de bruit dans le monde entier. Beaucoup de scientifiques, beaucoup d'ingénieurs de toutes compétences étaient présents et ça avait contribué à ce que le Parlement européen révise l'opinion qu'il pouvait avoir sur les brevets qui, faut s'en souvenir, on est a priori souvent très favorable aux brevets industriels parce qu'on sait que ça permet de protéger son travail. Mmh. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de protéger notre liberté avant de protéger l'intérêt qui est exclusivement celui de très gros monopoles.
Mmh. Faut savoir que l'existence de brevets industriels n'est pas un antagoniste avec la liberté individuelle. On peut très bien breveter des choses qui sont réellement et vraiment industrielles, tout en laissant aux logiciels libres leur rôle fondamental de transmission de la connaissance.
Oui, puis il y a une chose aussi très particulière à l'informatique en général, c'est que la vie d'un programme informatique est très courte. Je veux dire, commercialement parlant, quand un éditeur sort un logiciel, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais tous ceux qui sont joueurs le savent. Lorsque vous achetez un jeu informatique pour votre ordinateur, parce que vous aimez ça ou parce que vos enfants aiment ça, vous vous ruez dans les rayons informatiques des grandes surfaces ou des magasins spécialisés pour acheter un exemplaire. Et puis, si jamais vous ne l'avez pas fait rapidement, eh bien, vous allez constater que quelques mois plus tard, bien souvent, le jeu n'est plus présent et qu'il est quasiment introuvable. Ce qui démontre que les produits informatiques sont des produits à vie relativement courte. Il est difficile pour un producteur de rentabiliser son produit. Mais si on imagine qu'un brevet logiciel à la même durée d'activité qu'un brevet ordinaire, c'est-à-dire, je ne sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, je ne sais plus si c'est 25 ans ou 30 ans, ça veut dire que quelqu'un qui a eu une idée particulière, mais je ne parle pas d'une histoire, je parle d'une idée technique, sur un logiciel de jeu, par exemple, mais ça peut être un logiciel de gestion, c'est pareil. Eh bien, s'il dépose un brevet dessus, plus personne n'a le droit de s'en servir avant 30 ans. Quand on connaît l'évolution des produits informatiques, c'est complètement délirant. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, à la limite, même en ayant beaucoup de sympathie pour les brevets, on pourrait se dire, bon, on vous donne la préférence pendant 3 ans et puis après, les autres font ce qu'ils veulent. Mais même ça, ce serait déjà aberrant.
Tu faisais allusion à la mise en péril de plusieurs milliers de petites entreprises. Ça représenterait combien d'emplois au niveau de l'Europe ?
Au niveau de l'Europe, c'est plus de 100 000 emplois.
Non, beaucoup plus que ça.
Non, mais au minimum, c'est 100 000 emplois.
Non, c'est 10 millions d'emplois. fait 10 millions, le chiffre donné par la FFFI.
Indirectement, c'est 10 millions d'emplois. C'est considérable.
Toutes les sociétés que travaillent en logiciel libre ou pas, tout le logiciel libre d'ailleurs serait en quelque sorte pas condamné, mais fortement diminué par cette loi.
Alors on va préciser que ça sera le 14 avril à Bruxelles que cette manifestation aura lieu.
Oui, c'est le 14 avril. Donc moi j'ai reçu un courrier là, de cette organisation hier qui m'invite à répondre à ce courrier pour dire si je viendrai, à quels événements particuliers je veux me joindre, parce qu'en fait il y a des conférences qui auront lieu à l'intérieur de la communauté européenne et des locaux du Parlement. Des manifestations publiques, comme ça avait été fait au mois d'août, notamment une improvisation théâtrale dans la rue. Et au mois d'août, il y avait plus de 500 personnes qui étaient présentes. Il se trouve que toutes ces 500 personnes qui venaient de toute l'Europe étaient des gens très militants. Donc c'est une bonne chose. Mais si jamais vous avez l'occasion ou l'envie d'aller à Bruxelles pour une raison ou pour une autre au mois d'avril, eh bien choisissez le 14 avril pour pouvoir vous joindre à ces différentes manifestations. Et vous pouvez en retrouver le calendrier très précis, bon, bien sûr sur Linux French, puisqu'on a publié un article sur cette question hier, mais aussi sur le site de la FFII.org, donc www.ffii.org, et là vous aurez tous les détails. Par ailleurs, vous avez sur cette page, et je pense il est important de le signaler, tous les liens sur les pages qui mènent sur les sites de la communauté européenne et du Parlement européen qui vous permettront d'accéder à tous les documents officiels sur cette question, toutes les réactions des députés élus actuellement, et ça peut vous aider à vous faire une idée précise de l'ampleur des dégâts possibles.
Très bien, on va peut-être dire un mot de ce qui se passe en ce moment avec Windows.
Ah oui, alors ça c'est assez savoureux et en même temps tout à fait insuffisant. C'est-à-dire que la communauté européenne a condamné ces derniers jours Microsoft et la procédure était en train déjà depuis pas mal de temps, je crois que ça faisait 2 ans, en disant que Microsoft allait devoir payer près de 500 millions d'euros d'amende pour avoir abusé de position dominante en obligeant tous les acheteurs de son système d'exploitation de les utiliser son media player, donc ça tue toute innovation et toute possibilité de commercialisation d'autres lecteurs de vidéos multimédia. Et donc la communauté européenne condamne Microsoft à 500 millions d'euros, c'est considérable, mais pour nous c'est considérable, pour Microsoft ça représente moins d'une semaine de chiffre d'affaires. Autrement dit, ça fait pas peur à Microsoft. Ce qui leur fait peur, c'est qu'on fasse appliquer réellement des décisions qui interdisent la vente liée, et c'est ce que réclament aujourd'hui les organisations, toujours les mêmes, l'April, la FSF, donc la Free Software Foundation européenne, et bien d'autres organisations. Il faut interdire à Microsoft de vendre, en dehors de son système d'exploitation, d'autres logiciels qui sont inclus dans l'ordinateur. Les gens ne se rendent même pas compte.
Et qu'on ne peut pas désinstaller.
Qu'on ne peut pas désinstaller, mais en plus, surtout, qui tue toute concurrence possible. Les gens, pourquoi vous iriez acheter un autre lecteur multimédia si vous en avez déjà un sur la machine, même si ce n'est pas le meilleur.
Et là, on peut parler de l'exemple de Netscape, d'ailleurs, qui vient de gagner il y a quelques mois, en intégrant Internet Explorer dans le système d'exploitation de Windows. En fait, Windows a tout bonnement et simplement tué cet autre navigateur. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est mourant, qu'il n'existe quasiment plus, Netscape.
Il représente
très peu. Oui,
commercialement, il n'existe plus.
Alors c'est vrai que maintenant on peut trouver à côté Mozilla, et qui lui respecte les standards du W3C. Le W3C c'est un organisme qui dépose les standards sur la manière de voir et de créer les pages, mais aussi beaucoup d'autres choses sur Internet. Il faut savoir qu'Internet Explorer ne le respecte pas, ou pas encore tout à fait bien, malgré ce qu'ils disent. Par contre, des logiciels comme Netscape ou Firefox ou Conqueror qu'on peut trouver sous différentes formules, différentes stations, on va dire, soit Windows, Linux ou Mac OS X, parce que la version de Conqueror pour Mac OS X s'appelle Safari, On peut trouver Mozilla, Apurant sur toutes les plateformes, et c'est un navigateur qui lui respecte les normes à 100% et est complètement libre.
Et parfaitement insensible au virus, faut-il le dire.
Complètement insensible au virus, tout comme son client de mail. Je peux rappeler quand même quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les trois quarts des virus attaquent directement Outlook Express. Pour les Windowsiens qui nous écoutent, en changeant seulement de client de courrier, en fait, vous supprimez beaucoup, beaucoup, beaucoup de virus. Mmh.
Qu'on se le dise, en tout cas, ça met un petit peu du baume au cœur, cette décision, parce qu'on avait maintes fois fait allusion à des collusions d'intérêts un petit peu malsaines au niveau de cette histoire des brevets, justement, avec Madame Machin, qui est la femme de Monsieur Truc. Donc, c'est
tout.
Voilà, c'est des mariages un peu contre nature. Là, on se rend compte quand même qu'à la Commission européenne, il n'y a pas seulement des voyous, il y a aussi des gens qui prennent quand même des décisions qui semblent aller dans un certain bon sens.
Oui, mais je vais pondérer ce que tu viens de dire, parce que je pense que ces gens prennent des décisions qui vont effectivement dans le bon sens, quelquefois vraiment à contre-cœur. Ouais. Ils le font sous la pression. Faut savoir que ces gens soutiennent complètement l'Office des brevets européens depuis le départ, et qu'il continue de le faire. Les experts de la Commission européenne sont les experts de l'Office européen des brevets.
Office qui touche depuis, qui enregistre depuis plusieurs années.
Depuis 20 ans.
Des brevets.
Voilà, exactement.
Il est 19h23, on est toujours en direct. Je pense qu'on va écouter un petit peu de musique avant de poursuivre avec la suite, puisqu'on a déjà dépassé le temps. On va écouter Black Eyed Smiley qui va nous chanter Crime of the Season.
Step right up, spin the wheel, try your luck as human veal. Hey, let's strike up the fun machine. Drums and flutes and combat boots for the home team, root, root, root. You gotta love the fun machine. This is really happening. They're so proud of me, but I know they just can't see with the eyes of a wise man, the faith of a poor man, the word of a strong hand is a curse of a young man. So we pledge our allegiance to die without reason for the gods we believe in. It's the crime of the season. And I don't wanna go, I don't wanna go, I don't wanna go, I don't wanna go. No, I don't wanna go.
Come on, all good boys and girls, climb aboard the temple world. It's up to you to save the world.
What is it for? There's no such thing as a holy war. It's just a man behind a curtain, and he makes completely certain that we're always having more and more and more and more and more and more and more. No, but I don't wanna go, I don't wanna go, I don't wanna go, I don't wanna go. No, I don't wanna go, I don't wanna go, I don't wanna go. So until we praise the illusion, crave revolution, or brave the confusion with a grave resolution. But I don't really know, I don't really know, I don't really know, I don't really know.
Breaking news this hour. The Pentagon prepares for war in the Middle East. 1 million Americans gathered to protest in Washington, D.C.
No, I don't wanna go.
Orwell angels on the telephone. They're watching you inside your home, even when you think you're alone. But the fun machine's always turned on. The FBI, the CIA.
Le FBI et la CIA vous surveillent, faites attention, Big Brother is watching you. On faisait mention hors antenne du fait que bah, pour entre autres raisons, peut-être d'avoir de l'espoir, à noter bah, trois couvertures médiatiques sur les logiciels libres, dans des émissions, bah, dans des journaux télévisés, et puis dans des émissions aussi, j'allais dire, incongrues que les maternelles sur France 5, qui ont très bien parlé des logiciels libres. Tout de suite, on va écouter cette interview de la société Edgeit, qui lui aussi abordera avec Albert le problème des brevets.
Bonjour, Patrice Lallemand, vous êtes le directeur de Edge IT, société qui travaille dans l'open source et qui offre du support pour les PME et des PMI. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce qu'est Edge IT et de quelle manière vous fonctionnez ?
Tout à fait. Alors, Edge IT, c'est avant tout, c'est un modèle de service. On bénéficie, en fait, on est composé d'ingénieurs expérimenté sur le domaine de l'open source pour fournir du service aux entreprises. Et donc on a développé ce modèle sur la base d'un centre de support technique. Le centre de support technique contient un centre d'appel à partir duquel on va répondre aux incidents de nos clients, et on a aussi un laboratoire qui nous permet de faire de la veille technologique en fait sur les différents produits qui sont supportés. Donc j'insiste sur le fait que c'est un centre de support, c'est pas une hotline, c'est vraiment des ingénieurs qualifiés, experts sur les technologies open source, et qui vont vraiment être en mesure de travailler depuis le niveau, ce qu'on appelle le niveau 1 d'incident, c'est-à-dire des problèmes simples d'installation, de configuration, jusqu'à des problèmes de code source où on va aller donc au niveau 3 pour essayer éventuellement de fournir un patch ou ce genre de solution. Au travers de ce centre de... Donc on vend des contrats de support, tout simplement, qui sont des contrats de support annuels avec 100 forfaits horaires, appels illimités, pour que nos clients se sentent libres justement de nous appeler quand bon leur semble. Et ça, ils peuvent nous appeler pour des incidents ou pour des questions d'ordre de la veille technologique. Ça, c'est le premier aspect. Autour de ce centre de support, on est aussi capable de fournir un certain nombre de services, des services complémentaires en fait du support. Donc ça va être des prestations d'audit, des prestations d'installation, de la conduite de projet, d'une manière générale, tous les services qui nous permettent de fournir un accompagnement aux clients. Parce que l'idée du modèle de service que l'on souhaite mettre en place et que l'on met en place même, c'est vraiment un accompagnement proche, humain, pour nos clients en fait. Ça, c'est le premier point. Le troisième aspect de notre modèle de service, c'est après le support et après le service, en fait on intègre des solutions. L'idée, puisqu'on connaît bien les problématiques de nos clients au quotidien, l'idée c'est de se dire après comment répondre justement de la façon la plus simple et la plus rapide à des problèmes de messagerie, des problèmes d'annual d'app, des problèmes de migration de serveurs de partage de ressources, etc. Donc on développe un certain nombre de solutions. On a une solution de messagerie par exemple qui intègre un produit de groupware. Alors là on fait pas vraiment de développement, c'est vraiment de la pure intégration de briques logicielles. On va prendre quelques services qu'on va intégrer ensemble, qu'on va tester, qu'on va mettre en place une procédure d'installation automatique de façon à gagner du temps sur l'installation. On a vu souvent des gens passer beaucoup de temps à compiler, à recompiler leurs programmes pour essayer d'avoir quelque chose qui tient la route. Nous, l'idée, c'est d'arriver sur une base de distribution généralement Mandrake, mais ça pourrait être Debian ou ça pourrait être Red Hat. C'est un peu plus difficile avec Red Hat en ce moment, mais a priori, peu importe la distribution, l'idée c'est de fournir un master qu'on va pouvoir déployer très rapidement. Et ensuite, l'essentiel de la prestation va jouer autour de notre expertise. On va configurer le produit, c'est-à-dire qu'on va vraiment donner un produit clé en main au client. On va passer, je ne sais pas, pour une solution de messagerie, on va peut-être passer 2 ou 3 jours dans une PME qui est entre 50 et 200 personnes pour mettre ça en place. Mais au bout de 3 jours, c'est en place, ça tourne et il n'y a plus de soucis. Ensuite, on va être au-delà de ce service, mais on va être capable de l'accompagner via un contrat de support annuel où on va fournir la maintenance, on va fournir la veille technologique sur les produits. Donc le modèle, il tourne un peu autour de ça. Support, service et solution.
Qu'est-ce qui différencie Edge IT d'une autre société de support, peut-être qui travaillerait dans le support propriétaire, et pourquoi avoir fait le choix de l'open source plutôt que du propriétaire pour une société de service comme Edge IT?
Alors, il y a un historique. D'abord, je ne connais pas d'autres sociétés de support en tant que telles. Je connais beaucoup de sociétés de services. Je connais des SS2I ou des SS2L. Mais jusqu'à présent, j'ai rarement vu des sociétés de support. Je pense que le modèle est un peu différent. Dans le cadre du... Enfin, dans le monde propriétaire, il y a un modèle qui est lié au monde propriétaire, qui est ce qu'il est, mais qui fonctionne bien. Généralement, c'est l'éditeur qui va fournir à la fois la R&D, la veille technologique, et le support qui de plus en plus ressemble à une hotline et plus qu'à un vrai support. Mais tout ça, c'est assumé par c'est assuré par l'éditeur. En revanche, dans le monde open source, les sociétés de services qui travaillent dans ce monde-là fournissent avant tout des ingénieurs pour des projets, pour de la régie ou pour des services ponctuels. La notion de support, alors Edge IT bénéficie de l'expérience d'une société qui s'appelait OpenCare, qui a démarré sur ce secteur-là, sur le secteur du support open source en 1999. À l'époque, les gens avaient plutôt tendance à nous dire « mais c'est stupide, il n'y a pas besoin de support en open source, il suffit d'aller sur Internet, d'aller sur les news, de demander aux gens, etc. » Or, moi j'ai été longtemps administrateur en entreprise et je sais très bien que les administrateurs, lorsqu'ils ont un problème en production, un problème bloquant en production, ils n'ont pas le temps d'aller passer 2 heures, 3 heures sur Internet, rechercher des informations, attendre de la bonne volonté d'un tel ou un tel pour avoir une réponse. Donc ils veulent pouvoir avoir un numéro de téléphone, avoir des interlocuteurs qui sont reconnus et qui vont être capables de prendre en compte directement leur appel et de leur fournir une solution le plus rapidement possible. Donc ça, je pense que c'est, pour revenir à la question de départ, c'est pour ça que Edge IT s'est mis sur la partie support, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui manquait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient dans l'open source une opportunité de développer un business, ce qui est quelque chose d'évident. Mais moi, je pense que c'est aussi une opportunité de fournir un service, une autre façon de fournir du service, d'être peut-être un petit peu plus proche des clients. Et pour moi, ça passe par un centre de support, ça passe par un contrat de support annuel, ça passe par une relation avec le client. Donc ça me paraît un petit peu différent d'un pur modèle de régie où on va placer des gens et finalement, peu importe les projets, l'intérêt étant surtout d'avoir réussi à placer des ingénieurs chez un client.
Une dernière question. Aujourd'hui, les sociétés qui travaillent dans l'informatique, soit dans l'informatique libre ou même, on va dire, propriétaire, sont confrontées à différents problèmes. On peut parler des brevets logiciels, de l'EUCD qui touche aussi l'informatique. Pour vous, les brevets logiciels, parce qu'on sait que ça touche d'un côté les logiciels open source, mais aussi les logiciels propriétaires, même si vous travaillez avec les logiciels open source, ça représente quoi? Un danger pour la société que vous êtes, ou vous pensez que ça pourra passer malgré tout?
Ah non, je pense qu'incontestablement, c'est un danger. Il faut absolument, à mon avis, il faut absolument faire quelque chose pour que ces brevets ne soient pas systématiquement imposés ou en tout cas pas en aveugle. Pour nous, on est un petit peu en marge de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu une démarche égoïste. C'est vrai qu'on s'occupe de nos clients, on s'occupe de l'open source, on s'occupe de mettre en place des solutions. On essaye d'être le plus professionnel possible. Ça, c'est le rôle d'Edge IT. En revanche, au sein d'Edge IT, ensuite, il y a des ingénieurs, il y a des hommes, il y a des femmes qui, elles, après, peuvent participer à d'autres choses et qui peuvent justement... apporter un écho dans toutes ces problématiques sur les brevets logiciels, sur toutes les tentatives qui sont faites d'une manière générale par un système commercial très, comment dire, très prenant, très dominant pour essayer d'écraser un peu ce modèle de service qui se met en place autour des logiciels libres.
Donc pour Edge IT, travailler avec l'open source, c'est aussi y participer.
Ah oui, absolument. Pour la première contribution d'ailleurs à l'open source que l'on peut faire, c'est justement de mettre en place du support, de le rendre accessible à des clients, etc. Mais on participe aussi à des projets de développement, même si Edge IT en aucun cas n'est une société de développement. Encore une fois, certains ingénieurs eux-mêmes participent à des groupes de développement. Et après, nous, on va essayer de sponsoriser des groupes de développement. C'est quelque chose qu'on fait, par exemple, avec les gens de eGroupware, puisque c'est une solution que nous, on a intégrée avec... C'est une solution de messagerie eGroupware qu'on a intégrée avec... C'est un peu technique, mais avec du PostFix, de l'OpenLDAP, du Cirrus IMAP. Et on met en place aujourd'hui une solution, cette solution eGroupware. Donc aujourd'hui, on collabore directement avec les gens du groupe de développement. Donc l'open source, c'est vraiment une opportunité de travailler autrement, d'apporter un autre service et d'apporter une alternative, une vraie alternative aux entreprises. C'est ça avant tout l'idée d'Edge IT.
Merci Patrice Allemand.
Merci Albert.
Voilà Patrice Lallemand rencontré aux Solutions Linux au début de l'année. Divergence numérique, ça continue. Divergence numérique, une collaboration de Divergence FM, de linuxfrench.net et de lea-linux.org. Kezako Léa, eh bien la réponse tout de suite avec JC, Anne et Fred.
Bon alors Léa Linux est née en 1999. C'est une équipe aujourd'hui de 4 personnes. Composé de Serge Chesmelli, Frédéric Bonneau, Anne Nicolas et moi-même, Jean-Christophe Cardo. C'est né à l'origine du soutien qu'on offrait aux débutants sur les listes de diffusion, notamment les listes Mandrake, toutes les listes de débutants avec Serge. Et on a décidé d'écrire des articles pour ne pas répéter 10 fois la même chose dans les listes de diffusion. À l'origine, c'est Serge qui a créé le site et puis très rapidement, on a rejoint. Voilà, donc à l'origine, le site était orienté exclusivement vers les débutants. Donc c'était en août 99 qu'il est né, et aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et les débutants ont évolué, et le site les a suivis dans leur évolution. Donc on a commencé à couvrir un spectre beaucoup plus large de compétences. Et en même temps, le public de débutants ayant beaucoup évolué, et étant de plus en plus de vrais débutants non techniciens, on a aussi élargi les compétences... pour des débutants encore plus débutants, moins techniciens, donc avec des articles beaucoup plus orientés, prise en main de Linux, des descriptions de Linux, etc. Donc pour résumer, qu'est-ce que Léa ? C'est un site web qui contient énormément de documentation. C'est un forum qui permet d'aider les débutants en direct avec leurs questions, les débutants et les autres. Et c'est aussi un canal IRC où les gens peuvent venir en direct poser leurs questions et où nous leur répondons. Léa, assez récemment, s'est constituée en association de loi 1901 parce qu'en fait le site avait drainé un certain nombre de compétences, un certain nombre de personnes, et on a trouvé intéressant de nous fédérer pour réaliser des manifestations ou participer à des manifestations. La dernière en date que nous ayons réalisée, c'est une manifestation avec des conférences et puis un repas à la fin, le 14 juin, à laquelle une soixantaine de personnes ont participé. Et ben voilà, c'est ça Léa.
Anne de Léa Linux pour nous parler de l'esprit de Léa.
Alors Léa, c'est donc 4 personnes aujourd'hui, comme l'a dit JC. Certaines comme JC, Fred, Serge, plus spécialisés on va dire sur le côté développement de l'interface du site, développement en PHP et en Perl. Moi je m'occupe plus particulièrement donc de la modération des contributions qui sont recueillies au niveau du site. Donc c'est énormément de travail, tant pour la publication des articles, le maintien du site, mais aussi pour les modérations des forums et toutes les bases d'informations qu'on a mises en place. L'objectif à terme, ça va être donc d'inclure des personnes supplémentaires dans le fonctionnement du site pour aider à la modération, pour aider au fonctionnement du site, chose relativement difficile parce qu'il va falloir déléguer un petit peu le bébé. Et surtout trouver des gens qui fonctionnent dans le même état d'esprit qu'on a voulu inculquer au site, à savoir avant tout de la convivialité. Léa, quand on vient sur l'IRC, CA par exemple, on dit ah bah, c'est bien ici, on dit bonjour, on se fait pas jeter parce qu'on pose une question de base. Et ça, c'est un petit peu notre credo, et on aimerait bien que avec l'explosion qu'on a en ce moment sur la fréquentation du site, eh bien, on continue en fait sur la même ligne de conduite. Sachant qu'en plus, ce qui nous facilite la tâche, c'est qu'on n'a pas d'étiquette, on va dire, à proprement parler. On ne fait pas partie de l'UG. On n'est pas affilié à telle ou telle association nationale ou européenne. On n'est pas affilié à une distribution. Donc, ça nous permet en fait d'accueillir un petit peu tout le monde. Voilà.
Fred de Léa Linux. Fred, pourquoi vous êtes au RMML cette année ?
Alors, Léa est venue cette année au RMLL d'abord parce qu'on a été invité, première chose. Ensuite, on est venu parce que on veut montrer notre travail collaboratif. La façon qu'on a travaillé, ça consiste essentiellement à proposer aux gens de venir sur le site pour lire notre documentation. Sur chaque page, il y a un lien pour dire vous pouvez corriger l'article, nous le renvoyer pour qu'on puisse le remettre en ligne. D'autre part, on appelle régulièrement quand quelqu'un a résolu un problème ou un autre. À ce qu'il nous rédige une documentation même succincte qu'au besoin on corrigera, mais qu'en général on ne corrige pas. Et ça permet en général de faire évoluer le site, et c'est ce qui a fait croître Léa jusqu'à maintenant. Donc dans la même lignée, on a voulu montrer qu'on peut travailler de manière collaborative pour faire grandir un site et pour écrire des documentations entre plusieurs contributeurs et toute la communauté qui est vie autour de Léa et du logiciel libre en général.
Voilà, vous l'aurez compris, si vous êtes comme moi, que vous débutez avec Linux, que vous savez même plus comment on crée un raccourci ou qu'on copie-colle n'importe quoi, rendez-vous sur lea-linux.org. Là, c'est vraiment le site, un des sites de référence en tout cas, pour aller s'initier à ce système d'exploitation si particulier. Signalons donc que linuxfrench.net et lea-linux.org vont se jumeler pour un nouveau portail qui sera en ligne entre la mi et la fin avril et qui s'appellera asile.org, asil.org. On espère que Frédéric Rénal n'a pas oublié notre rendez-vous pour nous parler Wi-Fi et sécurité. En attendant, on va écouter Cow Bitch qui ne regarde pas plus loin que ça. Look no further.
Bonjour à tous et désolé pour mon retard. La chronique du jour portera donc sur le Wi-Fi, en bon anglais puisque ça vient de Wireless Fidelity, ou le Wi-Fi en français. C'est un nouveau truc à la mode qui est hyper pratique et surtout hyper amusant. Donc en gros, qu'est-ce que c'est ? D'habitude, quand on a un réseau, on a des câbles qui traînent partout, on a nos épouses, nos amis qui râlent dans tous les sens parce qu'elles se prennent les pieds dedans. Avec le Wi-Fi, ces problèmes-là sont résolus. Bon, il y en a d'autres, mais ceux-là au moins sont résolus. Alors pourquoi ces problèmes sont résolus ? Tout simplement parce que wireless signifie sans fil, donc fini les câbles au milieu du salon. Le vrai nom du Wi-Fi est en fait beaucoup plus poétique, ça s'appelle le 802.11, et ça se décline en tout un tas de normes plus ou moins sympathiques. Une des premières a été le 802.11b, qui permettait des débits de 11 mégabits, et qui est encore très couramment utilisée parce qu'elle est très peu chère. Elle a... À peu près en même temps, il y a eu le 802.11a qui permettait un débit double, mais qui était beaucoup plus cher et qui finalement n'a pas du tout pris. Et maintenant se développe le 802.11g qui permet un débit de 54 mégabits, mais qui surtout corrige la plupart des problèmes, enfin beaucoup des problèmes de sécurité du 802.11b. Alors, vous vous doutez bien que quand on a un réseau sans fil, il y a de nouveaux problèmes de sécurité qui apparaissent. Quand vous voulez écouter sur un réseau, normalement, il faut vous brancher sur ce réseau, c'est-à-dire qu'il faut tirer un câble entre la machine de l'attaquant et le réseau. Là, il n'y a plus ce problème-là. Les paquets se promènent dans l'air, donc ils viennent jusqu'à la machine qui veut écouter. Donc maintenant, en Wi-Fi, c'est le réseau qui vient à l'attaquant, et il va falloir régler ces problèmes-là. Il existe en fait deux modes de réseau sans fil. Tout d'abord, le mode ad hoc, qui est une espèce de mode point à point, c'est-à-dire que les deux ordinateurs se connectent l'un à l'autre, chacun pouvant être connecté à plusieurs ordinateurs, et le réseau évolue ainsi dynamiquement. Donc ces protocoles ne sont pas encore très très fiables, notamment au niveau du routage, et pas mal de travaux sont encore réalisés là-dessus. L'autre mode est le mode infrastructure. Là, on dispose d'un point central, appelé access point, qui joue le rôle à peu près similaire à celui d'un hub, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut se connecter au réseau sans fil, il se connecte à ce point d'accès, et c'est ce point d'accès qui se charge ensuite de redistribuer le trafic. Alors, pour mettre en place le web, il faut deux choses. D'une part, il faut connaître le SSID du réseau, comme dans le cadre d'un réseau fermé. Mais en plus, on va utiliser un secret, qu'on va appeler un secret partagé, parce qu'il va être distribué entre tous les éléments du réseau, que ce soit le point d'accès ou tous les clients qui vont vouloir se connecter au réseau. Ainsi, quand quelqu'un ne connaît pas ce secret, qu'il va arriver sur un réseau, il va se mettre en écoute, il va voir qu'il y a des paquets qui vont transiter, seulement ceux-ci sont chiffrés et il ne pourra pas les lire. Enfin, ça c'est ce que pensaient, c'est ce qu'espéraient les gens qui ont conçu le web. Sauf qu'il a été très mal conçu, il s'appuie sur des choses qui ne sont pas cryptographiquement très fortes, et en fait, tout un tas d'attaques ont été publiées dans l'année qui a suivi sa mise en place. Donc actuellement, entre autres dans le 802.11g, on va vers une solution de remplacement du web qui est le WPA, qui est comme le web, mais en mieux. Enfin, disons qu'il corrige un certain nombre des problèmes du web, il en reste quelques-uns, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, pour mettre en place un petit réseau chez soi, honnêtement, avec du web 128 bits et puis du filtrage sur les adresses MAC, c'est-à-dire les adresses physiques des cartes, ce que permet de faire la plupart des points d'accès, c'est amplement suffisant. Si vous avez besoin de sécurité bien plus importante, là effectivement, il faut passer à WPA et avec certains protocoles de gestion de clés et compagnie, c'est autrement plus lourd. Bon, ça y est, vous dites tout soi ou c'est génial, faut que j'essaye. Alors par où commencer ? Bon, bah, sous Linux, il y a un site de référence qui est prism54.org qui fournit en fait des drivers pour le 802.11g à installer en plus du noyau qui donne un support impeccable sur pas mal de matériel. Regardez sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Sinon, vous pouvez aussi, plutôt que d'acheter un point d'accès, vous pouvez transformer votre Linux en point d'accès à l'aide du module HostAP. Donc là, c'est pareil. Recherchez avec Google, vous allez trouver, vous verrez, c'est très simple à mettre en œuvre. Il vous permet de configurer tous les paramètres, filtrage sur adresse MAC, SSID, web et compagnie. Tout ça marche très très bien. Si vous voulez faire un petit peu plus joujou genre wardriving, c'est-à-dire vous promener dans les rues à la recherche de réseaux sans fil, vous allez avoir besoin du module qui s'appelle AirJack. Donc tout ça se situe au niveau du noyau. Vous avez besoin, en fonction de ce que vous voulez faire, d'un noyau spécifique. Prism 54, c'est celui qui va vous permettre de vous connecter normalement à un réseau sans fil. HostAP pour transformer votre Linux en point d'accès. Et enfin, AirJack pour faire du wardriving. Au niveau des outils en userland, les outils qu'on utilise normalement, bien sûr, vous pouvez utiliser les sniffers habituels comme tcpdump et etherhill. Dans leur dernière version, ils récupèrent très très bien les trams 802.11. Sinon, deux petits outils qui sont pas mal du tout, AirSnort et Kismet, qui vous permettent de détecter et d'évaluer un peu la sécurité de vos réseaux sans fil. Ainsi s'achève cette chronique sur le Wi-Fi pour la paix dans les ménages. Enfin, j'ai encore un petit problème avec mes câbles d'alim et les câbles de mes enceintes, donc bon, vous voyez, ça résout pas tout non plus, hein. On a beau être geek. Allez, ciao!
Voilà, vous vous demandez peut-être que ce que c'est que cette musique de dingue. C'était Cow Beach, Look No Further, musique trouvée sur openmusicregistry.org. Tous des morceaux pour cette émission sous la licence Open Audio License. Et puis en la matière, déjà on va faire un petit salut aux lecteurs de Linux Magazine France qui nous écoutent peut-être sur le CD qui accompagne le magazine avec un fort différé, certes, mais signalons que dans le numéro 59 qui vient de sortir, eh bien on peut lire un excellent article intitulé La débâcle de l'internet, une autre vision, un article signé Janice Ian, une artiste américaine qui dit entre autres que l'internet, le téléchargement sont ici pour durer. Toute personne qui pense le contraire devrait se préparer à terminer dans une impasse de l'histoire. Jean-Claude, tu as parcouru cet article et tu l'as trouvé fort goûteux.
Ah oui, moi je l'ai plus que parcouru, je l'ai lu très attentivement, je l'ai même relu tellement j'ai trouvé ça savoureux. Cette artiste américaine qui n'est pas une jeune fille, elle a une bonne cinquantaine d'années, qui a eu son heure de gloire pendant les années 70 et qui travaille toujours, qui est toujours sur les scènes, les petits concerts comme les grandes salles de 3000 spectateurs, dit très clairement dans cet article que si elle peut toujours travailler aujourd'hui, c'est grâce à l'internet. Elle et beaucoup d'autres artistes américains qui ne font pas partie des écuries, des grands majors, beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, mais qui ne font pas des choses commerciales et qui sont rejetés par les majors et qui n'ont donc aucun moyen de s'exprimer. Et pour tous ces gens, l'internet a vraiment permis de pouvoir émerger ou de continuer d'exister. Et y compris en vendant. Parce que le téléchargement, une chose qu'elle aborde très très bien, cette dame, c'est qu'elle dit, mais quand on met un morceau en téléchargement gratuitement, librement, pour tout le monde, ça permet à beaucoup de gens qui n'auraient jamais eu de contact avec cette musique de savoir qu'elle existe et peut-être de l'apprécier. Mmh. Et elle dit très clairement que sans ces téléchargements d'un morceau ou de deux morceaux, voire d'un album entier, ça lui permet à elle et à beaucoup d'autres de vendre des milliers de disques en fin de compte. Mmh. Et que ça représente une part importante de ses revenus.
Voilà, alors entre autres citations de cet article, si un cadre de l'industrie musicale affirme que je dois être d'accord avec lui parce que cela va me rapporter de l'argent, je mets la main sur mon portefeuille. Elle dit aussi, je ne vous dis pas, je vends, le gratuit marche, ça c'est pas mal. Et puis elle dit aussi que l'industrie musicale n'a pas besoin d'aide extérieure pour se détruire elle-même. Un article à lire dans le numéro de mars de Linux Magazine France, un numéro tout violet. Et puis on va écouter encore un petit peu de musique assez bizarre, elle aussi. Il s'agit de Electro Junkie pour un morceau intitulé Hyper Jazz et on comprend pas trop pourquoi. We'll be right back. Voilà, est-ce que cet hyper jazz est au jazz ce que l'hypercube est au cube? On est peut-être en droit de se poser la question, mais on va arrêter de parler spiritualité pour eh bien faire peut-être un petit retour sur la presse. On parlait de LMF à l'instant. Linux Magazine France, qui d'ailleurs va changer de, apprend-on dans l'édito du mois de mars, va changer un petit peu de formule, peut-être pour que les lecteurs comme moi arrivent à lire plus loin que la 10e page, puisque au bout d'un moment, moi, je comprends plus grand-chose. Tu me disais, Jean-Claude, que le dernier Linux pratique est une perle en kiosque.
Ah oui, vraiment, si vous n'êtes pas un usager des logiciels libres et que, malgré tout, vu l'ambiance actuelle, vous vous posez des questions et sur une éventuelle migration, je vous conseille très vivement la lecture de ce numéro. C'est le 16e, le 18e, je crois. Et c'est très certainement le meilleur de tous les numéros que Linux Pratique a publié jusqu'à aujourd'hui. Je les ai tous chez moi, c'est pourquoi je dis ça de façon assez ferme. Je pense que vraiment tout utilisateur de l'informatique, averti ou non averti, trouvera dans ce numéro des renseignements intéressants et importants qui lui permettront de mieux utiliser sa machine.
Très bien, on va se quitter sur l'agenda avec tout d'abord, rappelons-le, le 9 et 10 avril, ce sera à Limoges qu'aura lieu Game Over, premier salon du jeu sur plateforme libre, un rendez-vous auquel Divergence Numérique, je crois, va pouvoir se rendre.
Absolument, au travers de la présence aussi d'Albert, notamment.
Et peut-être d'Anthony, s'il se porte mieux d'ici là. Rappelons que la manifestation à Bruxelles, je sais que c'est pas à côté de Montpellier, mais où que vous nous écoutiez, vous en êtes peut-être un petit peu moins loin que nous. La manifestation contre les brevets logiciels, ce sera le 14 avril à Bruxelles. Rappelons peut-être... un site pour avoir bien plus de détails sur le lieu de cette manifestation, mis à part linuxfrench.net.
Voilà, alors à part linuxfrench.net, il y a bien sûr www.ffii.org, qui est donc une association d'origine allemande, mais qui en fait est devenue une association européenne. Et même si vous ne pouvez pas vous déplacer à Bruxelles, sachez que sur le site de la FFII, vous trouverez des modèles de lettres à adresser à vos élus, à vos députés, notamment à vos candidats. N'oubliez pas d'aller voter ce week-end. Exactement. Et éventuellement de poser des questions sur ces problèmes spécifiques aux candidats, surtout aussi aux candidats des élections européennes qui vont bientôt avoir lieu.
Au mois de juin. Voilà, et puis le 26 et le 27 mai, ce sera à Archamps, en Haute-Savoie, qu'aura lieu Linux Edu, un salon des logiciels libres et de l'éducation.
C'est aussi un point fort de notre agenda, car dans l'enseignement, les enseignants qui sont tous contraints à des mesures budgétaires très sévères, de gré ou de force aujourd'hui, se tournent en grand nombre vers les logiciels libres. Et donc ce rassemblement à Archamps, je crois, va permettre de franchir un palier de plus.
Très bien, on ne dira pas que les rencontres mondiales du logiciel libre, ce sera au mois de juillet à Bordeaux, trop tard. Mais en tout cas, on vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute de Divergence ou d'autres choses. Jean-Claude, je te salue bien.
Merci Gilles et bonsoir à tous.
Bonsoir à tous et on remercie Rodolphe Guérard qui a mis en onde cette Divergence Numérique 6e édition. Salut.
Il y a deux possibilités.
Il y a deux possibilités.
Divergence FM.
Je me suis réveillé un matin et...
Divergence FM.
Une association reconnue d'utilité publique.
Divergence FM.
Partout en France.
Divergence FM.
Des millions de femmes, d'hommes et d'enfants.
Divergence FM.
Un droit pour tous.
Divergence FM.
Est avant tout une zone de culture.
Divergence.
La plus
répandue.
Et la plus connue.
Divergence FM.
La raison d'être. Divergence FM.
Les femmes sont de plus en plus dynamiques.
Divergence FM.
Vous croisez les jambes quand vous êtes assis à votre bureau, vous êtes un adepte des bains brûlants ou du sauna.
Divergence FM.
À l'époque, on avait besoin de bouger parce que c'était une époque où il fallait rester absolument immobile. Et on s'est rendu compte que c'était complètement mauvais. Alors on a remis en route.
Divergence.
Il faut lutter.
Divergence FM.
Il faut bouger.
Divergence.
Il faut bouger votre corps.
Divergence FM.
Il faut aussi bouger pour améliorer la qualité et la longévité de votre vie.
Divergence.
Divergence. Divergence. Divergence.